La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
La Fontanelle, Saint-Denis, le 9 juin 2019, avec l'artiste Barbara Manzetti. Bonjour Barbara. Nous t'avions rencontré en juillet dernier avec Nicolas Roméas pour un entretien pour l'insatiable Aubervilliers en archipel que nous avions fait dans le jardin de la Villa Médicis, je crois me rappeler. Tu étais alors en résidence au laboratoire d'Aubervilliers avec ton singulier projet d'humain resté étranger. Si je devais le définir avec quelques mots clés, je redirais resté point espace étranger. Je dirais FLE, français langue étrangère. Je dirais les langages, puis un peu Guy Debordien contre la société du spectacle. Et enfin, empathique, mystique, christique, politique. Mais ça reste abstrait. Comme il s'agit d'un work in progress, mais ça semble presque vulgaire d'employer ce terme, pourrais-tu nous restituer ce projet dans un premier temps ? Puis nous parler de sa suite qui m'amène aujourd'hui près de toi.
D'accord. Je te propose de lire un texte qui date de peut-être il y a 3 ou 4 jours et qui essaye donc de représenter ce que c'est rester étranger aujourd'hui, puisqu'il s'agit aussi toujours de réactualiser la forme que le projet prend et est en train de prendre, puisqu'il s'agit d'une forme processuelle. Et aussi durable, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui va chercher à aboutir dans une forme finale, mais juste de rester en vie. En fait, c'est un projet qui tente de rester en vie et même d'améliorer, de passer du mode survie au mode d'une vie et une forme habitable, donc dans la maison où nous nous trouvons aujourd'hui. Dit. Rester étranger est une espèce de famille. La famille est le format de l'œuvre, car rester étranger est une œuvre de l'art. Quel genre d'art ? Un art expérimental, c'est-à-dire un art en train de se faire, dont on fait l'expérience réelle, un art vivant non spectaculaire, non exclusif, qui appartient à ceux qui le font, qui le respirent, qui le transpirent. Vous aussi, vous êtes en train de le faire. Ce moment où vous vous engagez dans la lecture de ces lignes vous appartient. Vous entrez en contact avec l'activité qui fonde l'expérience rester étranger, une pratique de l'art sans extérieur. Cela n'attend pas de spectateur, ni de lieu assigné, ni de moment adéquat pour se faire. Rester étranger arrive et fait place à chaque personne qui entre en contact avec son activité. Le texte continue, mais ce qui me semble le plus important, en fait, c'est qu'il n'y a pas de spectateur dans rester étranger. Il n'y a pas de... S'il y a une frontière, la frontière est celle qu'on traverse à chaque fois quand on tente de rentrer dans la langue qu'on est en train de parler, la langue française, qui a aussi, pour moi, la forme, en fait, de ce qui serait la société française. Il y a une correspondance, disons, architecturale entre la forme de la langue dans laquelle on essaie d'entrer, ou par effraction, parfois avec cet accent, et aussi la société dans laquelle on essaie d'entrer. Voilà.
Et puis là, on est dans un lieu maintenant, contrairement à ce qu'il en était au départ du projet quand on t'a rencontré. Rester étranger, à un toit sur la tête, tu peux nous dire où tu en es de ce projet, justement ?
Alors, il était question depuis 2016, depuis décembre 2016, d'acheter une maison pour le projet Rester étranger, suite à la rencontre avec Abdallah et ses amis. Ce qui nous a semblé évident, c'est que ce qui manquait, c'était une forme d'habitation pour notre pratique artistique. Pas un hébergement d'urgence, mais une forme vraiment d'habitation et donc de lieu qui serait non seulement un lieu où rester, mais un lieu d'où partir. La maison, disons, la maison familiale, ou retrouver un point géographique qui serait un point aussi de départ, un point d'où repartir. Et donc, nous avions fait plusieurs recherches notamment avec l'association pour loger qui nous avait mis en contact avec un mécène, un tonnin qui était prêt en fait à acheter et mettre à disposition une maison pour notre projet pendant une dizaine d'années. Donc l'année dernière, lors de notre premier entretien pour l'Insatiable, je me préparais à rentrer à Rome où mon frère était en train de mourir. Et suite à sa mort, j'ai reçu cet héritage familial qui m'a donné la possibilité d'acheter à mon propre compte cette maison. Donc, qu'on a trouvée, qu'on a cherchée avec Hassan Abdallah. Nous l'avons choisi. Il se trouve donc à Saint-Denis.
Qui est donc un des participants du projet. Je ne sais pas si on peut parler de participants ou c'est bien au-delà de...
Ben, en fait, on ne parle pas vraiment de participants, on parle de membres de la famille.
D'accord.
Et quand on annonce ce projet, ce format artistique, disons, c'est une espèce de famille, c'est parce que ce n'est pas une famille de sang. Il n'y a pas de consanguinité. Mais il y a quand même une forme de lignée familiale, comme dans toutes les familles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui se rencontrent au sein de cette maison. Il y a des enfants qui sont en gestation. Il y a des enfants nouveau-nés. Il y a des petits-enfants. Il y a des plus grands-enfants. Il y a des jeunes adultes. Et puis, il y a des personnes plus âgées, comme moi, qui suis, disons... Je pense la plus vieille du projet ou quoi ? Ouais, peut-être je suis là. Ah non, peut-être pas.
Mais... Oui, oui.
Ben non, parce qu'il y a dans le bureau de l'association Restez étrangers, il y a des personnes qui ont quelques années encore, je me sauve. Mais donc, ce format, ce n'était pas un désir qui venait de moi en tant qu'artiste. Tiens, je vais faire un projet en forme de famille. Il vient en fait de la rencontre. Il y a, moi dans ma manière de travailler, je suis performeuse et danseuse, cette liberté en fait de me présenter à l'autre sans m'assigner, sans m'attribuer forcément un rôle. Mon rôle, il viendra de la perception qu'a l'autre de moi, en fait, Disons que j'ai tendance à incarner le rôle manquant. D'accord. Le rôle qui manque. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Alors, pourtant, dans ce que tu as posé comme cadre, finalement, puisque c'est quand même toi qui le poses, à savoir cette maison où tu loges des personnes, où parfois tu subviens aux besoins, hein, puisque je me rappelle que tu disais que chacun était rémunéré pour le projet avec la subvention. Même en tenant compte de l'échange artistique qu'il peut y avoir, est-ce que tu ne joues pas le rôle du dominant finalement que tu aimerais dénoncer, j'imagine, à travers ce projet ? Je me fais l'avocat du diable, hein, Barbara, excuse-moi d'avance de poser ce type de questions, mais voilà. Forcément, j'imagine que c'est une question... Peut-être que tu ne vis pas au quotidien, mais qu'on te pose certainement.
Certainement, parce que par ailleurs, ceux qu'on appelle les enfants de la maison, qui ne sont pas des enfants, mais qui sont des adultes plus jeunes, mais qui m'ont appelé maman, et donc j'appelle qui sont mes fils, donc les enfants, m'appellent la chaf, qui est le féminin de chef. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de tenace et déterminé, et que... je porte quand même ce projet à bras-le-corps depuis le début et qu'il y a beaucoup de décisions que je vais prendre et sur lesquelles il va falloir revenir parce que voilà, j'ai poussé le bouchon trop loin, parce que j'ai pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre sans consulter les autres. C'est vrai qu'il y a une forme d'urgence toujours dans laquelle on travaille. Et que la barrière de la langue aussi, parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, on avait du mal à se comprendre. Et ça a créé beaucoup de malentendus. Et que l'enjeu de la langue, moi, m'a mis sur une place dominante, parce que je parlais mieux la langue que mes fils, disons. Et que c'était eux qui faisaient l'effort d'entrer dans la langue française. Par contre, ce qui s'est passé... et qui a un peu déjoué, en fait, ces rôles qu'on pouvait percevoir au début, c'est que quand ils se sont mis, eux, à utiliser les mots, qu'ils ont repris un à un les mots qui étaient sortis dans ma bouche et puis qui étaient enfin rentrés dans leur compréhension, ces mots ont repris du sens pour moi aussi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai commencé à réapprendre la langue au fur et à mesure qu'eux pouvaient l'articuler. Et c'est eux, en fait, qui ont redonné du sens à ces mots que moi, j'avais juste épelés et puis écrits et rangés. Et je me suis autant trouvée dans ce rôle d'apprenante que eux dans ce rôle, disons, du professeur. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une alternance toujours. Je suis la chaffe et en même temps, je subis beaucoup de choses. Je suis aussi le nègre du projet. Parce que je vais faire ce que les autres ne font pas. Puisque, de manière dictatoriale, mais très ouverte, j'ai voulu laisser à chacun l'ouverture et le droit d'être présent au projet seulement au moment et pendant autant de temps qu'il le souhaite. Donc il n'y a pas d'obligation de présence pour les autres. Alors qu'il y en a pour moi, si tu veux, parce que je décide pour moi-même, hein, je ne décide pas pour les autres. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ici, par exemple, tu vas voir qu'il y a Sabrina Penachetti qui est assise dans la pièce en train de prendre des notes, mais qu'il n'y a pas Hassan Abdallah, il est ailleurs. Donc la question de la présence me donne du pouvoir.
Mais laisse de la liberté aux autres.
Voilà.
D'accord.
Et il y a une forme de mise à disposition de cet espace de la maison, mais on est encore en train de penser comment cette mise à disposition de l'espace peut se faire. Cette mise à disposition ne doit pas empêcher le travail artistique qu'on s'est proposé de faire.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce travail artistique que vous vous êtes proposé de faire ?
On s'est proposé de... Donc, dans un premier temps, il y avait une ambition littéraire. Par ailleurs, on a produit énormément de textes, seuls, ensemble. Et tous ces textes documentent de notre manière d'entrer dans la langue et d'entrer sur le territoire français. Mais là, on arrive au chapitre moins 2 ou moins 3, parce qu'on va plutôt en dessous qu'au-dessus. Et là, il s'agit de déjouer nos ambitions, disons, littéraires, de faire, disons, des beaux écrits, et de passer à l'étape de la documentation. C'est-à-dire que il s'agit presque uniquement d'un travail relationnel actuellement. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour écrire ce qui s'est passé, parce que les choses continuent de se passer, continuent d'arriver. Et il y a des rencontres qui se font. Donc, je vous ai déjà... quand on a fait ce premier entretien avec Nicolas Roméas, je vous ai parlé de ma pratique artistique, qui est quand même basée sur la marche, la déambulation. C'est-à-dire que j'ai besoin de relier des espaces géographiques en marchant. Et ce qui m'amène à rencontrer des personnes, c'est comme ça que j'ai rencontré Abdallah.
C'est des parcours, en fait.
C'est comme ça que j'ai trouvé la maison, c'est sur des parcours.
Des parcours de vie, ouais. Des parcours de...
Ici, nous sommes entre l'université de Paris 8 et le laboratoire de Bervilliers, pour moi, géographiquement.
Donc il y a...
Et les personnes que nous rencontrons, les personnes que je rencontre là, dernièrement... me demande beaucoup d'attention, en fait, d'écoute et de temps. Ça m'empêche de prendre le temps que j'aimerais prendre pour écrire ou pour, je ne sais pas, voilà, faire autre chose. Donc, il s'agit d'être à l'écoute. Et donc, de préparer l'espace aussi pour les recevoir, et puis parfois pour les recevoir à long terme. Les personnes qui vont aménager dans la maison... Il y en aura 3 qui seront là à long terme, donc qui seront vraiment les habitants de la maison, et puis 8 ou 10 autres qui seront des habitants, disons, occasionnels ou à temps partiel. Ou...
Alors, je situe très bien l'aspect politique du projet, au sens étymologique du terme. Je situe bien évidemment l'aspect artistique.
Ouais.
Mais comment ce projet, il agit... dans le monde ou sur la société, au travers, je pense qu'on l'a compris, mais au-delà des personnes concernées.
Bah, par contamination, c'est un peu comme une grippe. Il faut... la proximité, c'est la condition. Parce que, bien sûr, malgré le site, les textes qu'on a publiés, les interventions publiques, le vrai, disons, les vrais changements s'opèrent avec le milieu très proche. Donc, je peux te parler de ma famille, comment la démarche d'adoption m'a mis face à mes parents et puis face à mon fils.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est ? Enfin, moi, je sais ce qu'il en est, mais cette démarche d'adoption, nous le rappeler ?
Ben voilà, à partir du moment où j'ai reconnu mon rôle de mère
dans ce projet,
et que j'étais affectée par ce rôle, et que j'ai senti qu'il y avait un besoin aussi de reconnaître de manière légale et administrative ce rôle, j'ai entrepris donc en septembre 2017 une démarche d'adoption, donc d'un des fils de la famille, et nous sommes encore en cours de procédure. Nous attendons une décision du tribunal de la famille, et donc ça a chamboulé forcément ma famille actuelle, parce que j'ai un fils qui a 20 ans, qui a un père, et que j'ai des parents en Italie, et qui se pose à ce moment-là le problème de la véracité de cette relation. Donc la question qu'on m'a posée, comme ont posé les juges par exemple, c'est en quoi cette relation avec ce jeune homme est une relation de mère et fils, et ce n'est pas juste une très belle amitié, et ce n'est pas autre chose. Et j'ai réussi à trouver l'argument qui vient justement de la langue maternelle, puisque notre langue maternelle est le français. Ce n'est ni sa langue maternelle ni ma langue maternelle, mais c'est la langue que j'ai pu lui transmettre, puisque la première pratique artistique que nous avons eue ensemble, c'est celle d'entrer dans la langue, à travers le trait, l'écriture, et que j'ai senti le moment où cette langue était entendue et qu'il pouvait la prononcer. Et j'ai ressenti la même émotion que j'ai ressentie quand mon fils Bartolomeo a dit des premiers mots. Et pour moi, c'est cette question qu'on va me poser toujours, en fait, à plein de frontières, toutes les frontières du projet, que ce soit pour l'adoption ou que ce soit pour d'autres démarches que je fais, de la véracité aussi de moi, ma démarche. Que je ne feins pas quelque chose, que je ne fais pas une adoption pour donner des papiers à quelqu'un. En fait, j'adopte quelqu'un parce que je l'aime comme un fils et que je sens qu'il m'aime aussi comme une mère, comme une deuxième mère.
Et comment cet acte-là, c'est un acte, va agir sur le monde, au-delà d'agir sur la personne que tu vas adopter ?
Bah, ça change toutes les perceptions. Nous, ça change une famille, en fait, l'arrivée d'un enfant. C'est comme l'arrivée d'un enfant, sauf que cet enfant, il est adulte. Et que c'est un inconnu, comme l'enfant qui va sortir de toi, de ton ventre, tu vas voir pour la première fois, c'est un inconnu. On va aimer quelqu'un qui nous était inconnu, et j'ai vu qu'assez vite, mes parents, qui sont venus d'Italie pour le rencontrer, l'ont aimé.
Mais tu dis quelque chose qui est fortement symbolique, c'est ça que je veux dire. C'est un symbole très fort.
C'est très fort, et puis ça, par contamination, ça va changer. Alors je ne sais pas combien de membres a ma famille italienne. Mais donc, par contamination, mes cousins, les frères de mon père, de ma mère, et tout ça, bah, tout le monde a déjà digéré, disons, cette arrivée. Un peu comme si j'avais accouché d'un nouvel enfant, en fait.
Est-ce que tu peux nous parler de ce nouvel enfant ?
Le nouvel enfant, comment je peux en parler ? Les choses se sont faites assez naturellement, en fait, dans les lieux où on se rencontrait, donc à la ménagerie de Verre au début, en 2017, en janvier 2017. Nous avons commencé Oui, à discuter sans avoir de mots en commun. Et puis aussi à écrire sans avoir d'alphabet en commun.
Alors, parce que d'où venait cette personne? Quelle était sa langue maternelle, justement?
Sa langue maternelle, c'est la langue Tama,
oui.
Qui est une langue qui est parlée au Dartama, une région, pardon, un département qui se trouve dans le Wadi Fira, au nord-est du Tchad.
D'accord.
Et donc, mon fils n'avait que cette langue maternelle en sa possession, et puis la langue arabe qui est parlée au Tchad. Et nous avions en commun quelques mots comme « bonjour » ou « ça va », « oui », « non », et c'est tout, c'est plus ou moins tout. Et il y a d'ailleurs sur le site de Récits étrangers, sur la radio, le volet radio, plusieurs émissions dans lesquelles on nous entend ébaucher des premières conversations aussi sur son voyage, comment il est arrivé. Et là où notre relation commence à se nouer, je ne sais pas.
Se
construire, oui. Mais donc la démarche d'adoption arrive en fin d'année, voilà. À l'automne, assez vite en fait, hein. C'est arrivé assez vite. Et puis la rencontre entre les deux fils. Donc, le fils ancien, le nouveau fils, je ne sais pas comment les appeler, mais donc les fils se rencontrent et on remarque qu'ils ont pas mal de choses en commun, par exemple la date de naissance. Ils ont exactement un an de différence. Moi, j'ai accouché de Bartholomew le 1er janvier 1999. Et Hassan est né le 1er janvier 1998. Voilà. Il y a cette coïncidence qui est assez heureuse et drôle.
Belle, même.
Belle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette relation? Je ne sais pas.
Alors,
dans l'art, en fait, en tout cas dans la pratique artistique, c'est clair qu'on a travaillé dans des centres d'art. Avant de cuisiner, partir en vacances.
Alors, je continue à cuisiner et à me faire l'avocat du diable. Ouais. Quelle légitimité tu penses que tu as à faire ce travail et de cette manière?
Quelle légitimité? Moi, je pense que je ne regarde pas les choses de ce point de vue-là. Je crois que mon ambition est de tenir il faudrait là que je parle de l'éducation que j'ai reçue parce que c'est un peu ça qui m'amène dans ce projet. J'étais éduquée par un père qui m'a un peu, disons, bourré de principes.
De principes de quel ordre?
De quel ordre? Par rapport au travail, pourquoi moi je suis celle qui est présente au travail tout le temps? Parce que mon père, il m'a appris, quand il était directeur de l'hôpital du Vatican, il me disait, moi je dois être le premier à arriver sur place et le dernier à partir. Donc mon père, il partait à 5h30 du matin et puis il rentrait toujours en dernier. Et il parlait aussi toutes les langues qui se parlaient à l'intérieur de l'hôpital. Il parlait les dialectes, il parlait, disons, la langue plutôt liée au pouvoir et à l'administration. Et toutes ces choses, moi, je les ai observées, je les ai intégrées. Et puis aussi, l'héritage donc, de ce grand-père communiste, cette figure quand même dans la famille Manzetti, qui avait à l'époque mussolinienne, en 1936, il avait fait construire dans la bourgade où la famille avait été, exilée, il avait fait construire un dortoir pour les pauvres. Donc, cette histoire du dortoir des pauvres qu'avait fait construire mon grand-père, mon père me l'a raconté, puis me l'a re-raconté, et puis ce dortoir, je l'ai visité. Et j'ai écrit aussi, il est devenu une bibliothèque. Aujourd'hui, il se trouve à Rome, dans la bourgade de Primavalle. Et mon père, il me disait, nous, on était 9 enfants à la maison, donc on dormait à plusieurs dans le même lit, on n'avait pas de couverture, on se couvrait avec des manteaux. Il nous manquait tellement de choses, mais mon père, lui, il donnait le peu qu'il gagnait aux plus pauvres que nous. Et aussi, il s'investissait toujours à l'extérieur. Et moi, je pense que j'ai la sale tendance, un peu vicieuse peut-être, à vouloir aussi m'investir.
Oui, c'est presque ta mythologie, en fait. Non?
Oui, voilà. Ouais. Quand tu parlais aussi de... Je sais pas, C'est ma partie mystique.
Je me suis la manifestation d'une mystique humaine.
Ouais.
Tu peux développer là-dessus un peu sur ce côté.
Je ne sais pas pourquoi mystique. Je me suis. Ben, j'ai. Comment dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait volontairement. Je peux l'observer parce que je me relis. Je lis ce que j'écris et puis je relis aussi les parcours que je fais dans la ville. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Aubervilliers et Rome. Ces deux villes que j'ai associées, que j'ai complètement reliées à travers l'écriture. Et j'ai compris pourquoi je me sentais plus à l'aise à Aubervilliers qu'à Paris, par exemple. Parce que je viens d'un endroit avec d'une bourgade, avec des trottoirs défoncés, avec des voitures garées au bord. Les monuments de mon ancien quartier, comme j'ai écrit dans le texte, sont les voitures garées. Et tu vas voir la même chose ici dans le quartier à Saint-Denis où nous nous trouvons. Tu ne peux pas marcher sur ces trottoirs, tu dois marcher au milieu de la rue. Et peut-être c'est la raison pour laquelle je choisis la maison ici à Saint-Denis. Qu'est-ce que je peux dire de cette figure du grand-père? Pour moi...
Est-ce qu'il y a une figure un peu christique, sacrificielle, qui rentre en...
Christique, non. En fait, le grand-père est un grand-père d'ailleurs communiste. Mais oui. La figure christique serait peut-être mon frère qui est un peu la figure souffrante dans ma famille. Mon frère qui est décédé l'année dernière après 30 ans de maladie, en fait. Donc il a aussi laissé cette... c'est pas, parce que c'est pas du tout un mythe, mais il a laissé derrière lui une grande admiration, en fait. Parce que quelqu'un qui a souffert autant, mais qui a réussi à faire autant de choses, autant d'œuvres, disons, pour l'hôpital, pour les malades.
Et qui était dans la lutte, donc lui aussi.
Il était dans la lutte, oui. Et c'est clair que j'ai une dette en tant que sœur unique de ce frère qui est mort, sœur en bonne santé. Et donc, je pense que oui, que j'ai tendance plutôt à porter des croix, à faire des choses difficiles, à prendre des responsabilités. M'intéresser moins, tu vois, cette maison, moi ce que je désire, c'est pas du tout d'avoir une belle maison dans laquelle habiter, avoir un bel atelier pour faire mon travail d'artiste. Je souhaite qu'il y ait le plus de justice possible, au moins à l'intérieur ou dans les environs de cette maison, et que ça puisse vraiment œuvrer à changer, améliorer la vie des personnes qui sont dans cette famille élargie qui est restée étrangère.
Un îlot, un microcosme.
Non, c'est pas une île parce que, comme je te disais, il y a la contamination. Et la contamination, ça donne des idées. Hein. Moi, j'étais contaminée par le rêve de Olive Martin et Patrick Bernier, leur proposition artistique qui s'appelle Plaidoirie pour une jurisprudence. Où un avocat, une avocate, deux avocats jouent et défendent la circulation des personnes à travers une proposition artistique où c'est la personne qui transporte l'œuvre en elle-même. Et moi, cette proposition, elle m'a non seulement inspirée, moi j'y ai cru en fait. Je l'ai prise pour une réalité et j'ai essayé de la mettre en œuvre. Et je me suis aussi laissée transformer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des choses intelligemment ou consciemment, il s'agit aussi pour moi d'être affecté et changé par les choses qu'on fait. C'est pour ça que quand je te dis je vais lire un texte, parce que le projet a été réactualisé, c'est parce que moi je ne suis plus la même personne que j'étais en 2015 quand ce projet a commencé.
Oui, ça agit donc aussi sur
toi. On agit, on apprend des autres, on a appris beaucoup des Roms au début du projet. J'avais fait ce voyage à pied en Île-de-France et où j'ai rencontré les gens qui errent, qui n'ont pas de toit et qui vivent dans les interstices, dans les bois, sous les ponts. Et j'ai appris de ces personnes les gestes qui après ont créé aussi fait ce projet. Et la maison, c'est pas vraiment mon désir, c'est le désir de mes amis qui rêvaient d'une maison, qui parlaient de la maison. Comme Hassan dans son texte que je connais maintenant par cœur, il a écrit si tu veux... Non, ça y est, maintenant que je vais les lire, je l'ai oublié. Si tu veux vivre dans la maison la plus tranquille, tu dois rester dans la maison de tes parents. C'est ça qui m'a...
C'est le refuge, en fait. C'est le refuge de ton grand-père. C'est un peu...
Oui, bah, le dortoir des pauvres... Le dortoir des pauvres, à cette époque-là, en fait, où on construisait la banlieue romaine, en imitant, d'ailleurs, c'était même pas des vrais architectes qui avaient conçu ces logements où mon père a grandi, mais c'était donc des architectes qui s'étaient inspirés des banlieues qu'on construisait en France ou en Allemagne. Donc, c'est des imitations. C'est assez joli, en fait. Donc, ce dortoir, il se situe entre ces cités qu'on vient de construire et la bidonville. Et la population, c'est pour la plupart des Italiens hein, qui arrivent d'autres régions d'Italie et qui vivent soit dans des cabanes, soit dans le dortoir, soit dans les maisons. Mmh. Et ils vivent et travaillent ensemble, dans une extrême pauvreté. Mmh.
Alors, comme on arrive à peu près à la fin de l'entretien, je voudrais m'adresser à la danseuse chorégraphe que tu es. Est-ce que dans la danse, c'est déjà une question que j'avais eue la première fois quand on s'est rencontrés, est-ce que dans la danse, le frottement, le rapport au corps de l'autre qui est un rapport d'intimité, on le retrouve dans ton projet qui est la création d'un corps collectif hein, dont la réalité se traduit ben, par l'écriture de textes, par exemple, de récits, hein, dont tu nous as parlé. Et ce projet serait-il donc, au fond, la transcription sociale d'une espèce de corps de ballet ? Autrement dit, le rapport d'intimité et d'empathie avec les autres a-t-il à voir avec le fait que tu sois danseuse ? C'est déjà la question que je m'étais posée la première fois quand on s'était rencontrés.
Pour moi, ce qui est évident, c'est que le métier de danseuse, pour moi, en tout cas artiste chorégraphique, il est lié à une forme d'empathie, qui est la première chose qu'on apprend quand on danse. Avant, les techniques, les différentes techniques, on apprend l'empathie, en fait. Parce que la danse, comment elle se transmet ? C'est pas devant un miroir, elle se transmet par le côtoiement. Plus que par... ce n'est pas parce que je regarde et j'essaie d'imiter ton geste que je vais pouvoir le refaire à ton rythme et dans les mêmes nuances de mouvement. C'est parce que je me mets à côté de toi sans te regarder et que je vais prendre par la respiration, par le côtoiement, une autre dimension qui est vraiment l'intuition même du geste. Et donc, en tant que danseuse, je travaille avec mon intuition, avec ma respiration. Et avec le côtoiement, c'est-à-dire que je ne vais pas moins observer, je ne vais pas être dans l'observation, mais je vais être dans la sensation. Et c'est ça qui me semble la chose, qui serait plus techniquement liée à la danse, et aussi, ce qui est pour moi évident depuis le début, le fait d'avoir transformé disons la dimension spatiale de la danse, les déplacements dans l'espace, de les avoir ramenés sur un cheminement qui est non seulement, qui ne se traduit pas seulement par le fait de marcher, de se rendre à pied d'un lieu à l'autre du projet, mais aussi sur le fait de concevoir l'œuvre elle-même comme une trajectoire et donc comme un cheminement et pas du tout comme un aboutissement. Donc je ne vois pas du tout ce projet comme quelque chose qui va aboutir à, mais comme quelque chose qui va essayer de se frayer un chemin et continuer à trouver son avancement avec ses différents participants, oui, ou membres de la famille. Et comme Hassan nous l'a appris, quand tu es sur ce chemin ensemble avec un groupe, il faut toujours se retourner pour regarder la femme enceinte. Elle va être fatiguée. Peut-être qu'elle a besoin qu'on ralentisse. Peut-être que l'enfant qui court devant, il va falloir le rattraper. Et donc ce rythme commun, il fait qu'il faut déjouer tous ces élans ou désirs, un peu comme quand tu danses dans un unisson. Mais c'est bon, c'est un unisson un peu bancal quand même. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, mais c'est un peu taoïste. C'est l'essentiel, c'est de marcher, non ? C'est la vie, en fait, ce projet.
L'histoire de la marche et de la déambulation, elle est là depuis toujours. Dans mon travail, je ne comprenais pas, quand j'avais déjà 18 ans, dans ma première résidence artistique dans un lieu, je ne comprenais pas pourquoi je devais rester enfermée dans ce studio pour faire mon travail. Et donc, je reliais mon appartement au lieu de travail, dans un bleu de travail, et je m'arrêtais sur le chemin. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas ça par contre d'où ça vient, mais ça doit bien venir, je pense, de quelqu'un. Je crois beaucoup maintenant à l'héritage, en fait. Une dimension plutôt...
Quand je parlais de marché, je veux dire de... je voulais parler d'une quête, en fait. Oui, marcher au sens figuré.
Ah oui, marcher au sens figuré.
Au sens propre, ouais. C'est sûr, on l'a bien compris, mais au sens figuré, en fait. C'est en cela que c'est finalement la vie.
Oui, oui.
Le sens de la vie. Barbara, tu voulais, je crois, nous lire un texte que tu avais écrit pour l'ouverture de l'exposition que tu avais présentée à la Terrasse à Nanterre, et qui se passait au moment de l'occupation de l'université Paris 8 par 150 migrants. Je crois que c'était en janvier 2018.
C'est ça.
Tu veux nous en dire un petit peu plus avant de le lire ou commencer à le lire directement ?
Donc ce texte, je l'avais... je pense que oui, je l'ai écrit à l'université de Paris 8, dans le bureau 154, dans le bâtiment A, donc dans le bâtiment d'art plastique, qui était occupé par ce groupe de migrants... pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Et je l'ai écrit pendant la nuit, en regardant l'entrée, le bâtiment occupé, en fait, depuis le bureau des professeurs de la section de danse, du département de danse. Comment on appelle quelqu'un qui est présent mais qui ne dit rien ? Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas autorisé à travailler et qui du coup ne travaille pas ? Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas d'ici ? Comment on appelle quelqu'un qui a un petit accent ? Comment on appelle quelqu'un qui devient suspect lorsqu'il est bien habillé ? Comment on appelle quelqu'un qui, par sa seule présence, risque de faire chuter le prix de l'immobilier de tout un quartier ? Comment on appelle quelqu'un qu'on aime comme son propre enfant ? Comment on appelle quelqu'un qui, par sa seule présence, enracine les mots qui s'étaient perdus dans mes pourparlers ? Comment on appelle quelqu'un qui dit « Je suis comme celui qui n'aurait qu'une jambe ?» Comment on appelle quelqu'un qui est persécuté en France ? Comment on appelle un pays où on n'est pas libre d'entrer ? Pour faire une page, il faut en défaire plusieurs. J'ai rodé, j'ai scruté les inscriptions, des rangées de petites formes circulaires vides et aux contours irréguliers, des séquences de mots. Quelqu'un, personne, il y a une personne. Son, sein, sang, sens. Un jour, à force de scruter, je serai envahi de sens. Les mots assurés à leur phrase encercleront la réalité. Ils la transperceront comme tant de tunnels irriguent la ville. Des artères à l'intérieur desquelles je conduirai à travers les siècles de mon ignorance sans allumer les phares, comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. Les mots disent la beauté. Magnifique, merveilleux. Personnellement, je préfère merveilleux, car ce qui est magnifique se révèle imposant, encombrant à cause de sa magnificence. Cela a tendance à percuter l'œil, là où la merveille l'envahit d'une beauté palpable et sensible. Cette beauté est persuasive. Elle frôle, frissonne, fredonne, illumine. Dans l'action commune, je recherche la tendresse, jusqu'à m'attendrir. Tendre est le contraire de dur. Finalement, une personne qui écrit est un être de viande. Il faut savoir la découper avant de la cuire. Le verbe cuire porte un « e » à la fin. On cuit ce qui est cru. Mais le participe passé du verbe croire reste cru. Nous aussi, nous sommes crus. Ta peau crue n'est pas cuir. Le cuir est la peau tannée d'un animal. Un sac en peau de veau est un sac en cuir. Une peau de vache est une personne méchante, comme le contrôleur quand il a dit « Ces messieurs sont avec vous, madame ?» Comme l'agent qui a ajouté « Ah bon ? Ce monsieur est un artiste ? Et quel genre d'artiste ?»« Ah bon ? Ça s'écrit comme ça. » Et « Ha, ha, ha !» s'écrit comme ça. soit le H et devant le rire, soit le H et après le soupir. Je lève mon verre, il est plein. Plein, c'est quand il n'y a plus de place, parce qu'on a mis dedans tout ce qu'on pouvait. Notre capacité à supporter le racisme est pleine. À Paris, les magistrats ont rédigé les rejets avec le couteau qu'ils ont pris sur notre accent. Alors, dans notre famille, pour être cru, nous écrivons, en français. Écrire et passer le balai sur ce qui est sale, comme les femmes en Italie, des femmes de tous les âges qui se sont pincées le nez à l'approche des camarades de 15-16 ans. Écrire, c'est laver un pays sale. Pour l'hygiène des espaces occupés par les camarades, il faut écrire. Comme on change l'eau de la vaisselle quand la sauce huileuse du repas colle une auréole rouge sur le pourtour de la bassine. On écrit comme on verse le contenu de la bassine dans les WC. On écrit comme on tire la chasse. Et ça, camarade, si ce n'est pas de l'art, qu'est-ce que c'est ?
Merci beaucoup, Barbara.
Merci à toi.
La Fontanelle.
Fragment sensible et politique.